Bonjour et bienvenue dans Une Heure en Série, saison 1, épisode 2. Aujourd'hui, nous parlerons entre autres de féerie et xénophobie dans Carnival Row sur Amazon Prime, de perspectives trompées et gravures en aplats sur Baos, la série d'Arte. Et enfin, nous terminerons en discutant cathéter et syndrome d'Asperger dans The Good Doctor sur TF1.
Une Heure en Série, Xavier Le Herpeur.
Et il est temps de présenter les petits camarades. Bonjour les amis, bienvenue bonjour, dans ce numéro bonjour. 2 d'Une Heure en Série. On va commencer par les nouvelles arrivantes. Ariane Allard, bienvenue.
Bonjour.
Vous êtes journaliste à la fois ciné et télé.
Voilà.
Vous écrivez à la fois dans Positif et dans Cosette, et c'est d'ailleurs dans Cosette que vous avez initié la page des séries télé. Excellente page par ailleurs.
Merci.
Bienvenue. Marjolaine Boutet, que les auditeurs de France Inter connaissent, parce que régulièrement vous intervenez sur l'antenne, on est ravis de vous avoir avec nous. Vous êtes historienne des séries télévisées, vous êtes maîtresse de conférences à Amiens, à Sciences Po, et vous critiquez les séries télé pour le magazine Phosphore, qui est un magazine de jeunes, c'est-à-dire pour
les
nous.
15-20.
Ah, voilà, disons les choses telles qu'elles sont. Et vous avez récemment publié un livre à la Martinière consacré à votre série préférée de tous les temps, c'est ce que vous m'avez dit de préciser.
Un village français.
Voilà, très bien. Et Benoît Lagane, toujours connu à certaines heures de la journée, ou plutôt de la nuit, sous le pseudonyme de conteur catholique. Faudra un jour quand même que vous nous expliquiez, mais vous êtes aussi un garçon du matin, puisqu'on vous entend à 5h53 le vendredi, dans le 5-7 de Mathilde Munoz, dans la chronique Fin FIM, bien sûr, de série. Bon appétit donc.
There is a rift in the city.
Time is running out. Something inhuman approaches.
We must all come together.
Voilà, vous venez d'entendre quelques secondes de la bande-annonce de Carnival Row, qui est donc diffusée sur la plateforme Amazon Prime. Les 8 épisodes sont d'ores et déjà disponibles depuis le 30 août. Pour faire vite le résumé, dans un monde fantastique à l'époque victorienne, où les créatures mythologiques cohabitent avec les êtres humains, le détective Ryecroft Philostrate et une fée qui s'appelle Vignette Stonemouth, Vignette quand même, je ne sais pas qui a eu cette idée, vous peut-être me le direz-vous tout à l'heure, vivent une dangereuse relation impossible alors qu'un serial killer sévit dans les rues de cette ville. Alors, pour dire deux, trois choses, on l'a compris, c'est à la fois Jack l'Aventreur et Roméo et Juliette, une cité rétro-futuriste. Non, déjà, Ariane n'est pas d'accord avec mon résumé, mais vous interviendrez tout à l'heure. C'est écrit par René Echevarria, auquel on doit Terra Nova, Castle, Les 4400 et Medium. Et donc, on a du steampunk, on a du fantastique, on a du féerique, on a du romanesque, avec un casting, vous me direz, de rêve ou de rattrapage, puisque les deux acteurs principaux sont Orlando Bloom et Clara Delevingne. Très bien, reprenez-moi. Ça devait être à l'origine produit par Guillermo del Toro, qui a un tout petit peu quitté le navire juste avant la production et l'écriture. La grande question, c'est est-ce qu'il manque ou est-ce qu'il ne manque pas du tout justement à cet univers fantastique qui lui ressemble tellement, puisqu'il est question de xénophobie, d'ostracisme, même de camp de concentration. Est-ce que Guillermo del Toro manque à cette série Carnival Row, donc sur Amazon Prime? Et je me tourne vers vous, Marjolaine.
Non, moi ce que j'ai beaucoup aimé précisément dans cette série, alors qui est quand même la première série de fantasy d'Amazon Prime, certes, s'est vendue pour prendre la succession de Game of Thrones, certes, mais c'est surtout la première série de fantasy qui n'est pas l'adaptation de romans préexistants. Et pour ça, je trouve que c'est vraiment intéressant. C'est un script, un scénario, une idée qui a tourné de bureau en bureau à Hollywood pendant près de 15 ans et qui est aujourd'hui, je trouve, d'une remarquable actualité. Vous pouvez dire ce que vous voulez sur Orlando Bloom, Cara Delevingne, qui sont quand même des acteurs qui ont un pédigré science-fiction, qui vont attirer les fans, parce que ils sont quand même...
On rappelle Orlando Bloom, Pirates des Caraïbes...
Pirates des Caraïbes, Le Seigneur des Anneaux,
surtout.
Cara Delevingne, Valérian. Donc,
ils sont tellement transparents, ces deux acteurs, qu'on a du mal à souvenir qu'ils étaient dans les films.
Mais non, mais personnel. En même temps, ils savent jouer avec des fonds verts, ils savent jouer avec des câbles. Orlando Bloom, il fait quasiment toutes ses cascades lui-même. Bref, mais en fait, ceux qui m'ont fait rester devant la série et ceux que je trouve vraiment très très touchants, c'est le couple secondaire, donc joué par David Gyazi, qui est un acteur que je ne connaissais pas et qui est absolument formidable, et Tamsin Merchant, que moi j'avais vu vue dans les Tudors et qui est une actrice que je trouve aussi très
touchante. Vous rappelez ce qu'il joue,
Marjolaine,
dans la série ?
Tamsin, elle joue une jeune fille bourgeoise de la bonne société de The Bug, donc de cette ville qui ressemble à Londres, et elle voit avec effroi s'installer à côté de chez elle, dans son très beau quartier, un Puck, c'est une créature mythologique anglaise qui a des cornes de bouc et des pieds de bouc. Et cet acteur a la peau aussi toute noire, mais ce qui pose problème, c'est les cornes et les sabots. Et donc ce Puck s'installe au milieu des humains, dans une société extrêmement raciste, et va se nouer entre ces deux personnages une relation intéressante.
Marjolaine, merci beaucoup pour cette analyse, cette dissection, j'allais dire, de toutes les influences mythologiques de la série. Mais est-ce que pour autant, cette adjonction d'ADN et de référence fait une bonne série ? Ariane Allard, je vous pose la question.
Moi, c'est pas ce que j'ai retenu de la série, c'est pas ce que j'ai trouvé le plus intéressant. Je trouve, en fait, pour moi, c'est très éparpillé. Je trouve qu'on a du mal à rentrer dans le scénario. On met un temps fou à comprendre où le récit veut aller.
Je suis d'accord.
C'est assez confus, je trouve. Franchement, moi, si je suis rentrée dans la série, c'est pour une raison qui est essentiellement visuelle. On le dit pas, enfin, il faut le dire d'emblée, je pense. C'est assez exceptionnel ce qui se passe au niveau esthétique. Et dès le générique. Moi, je trouve que le générique est absolument merveilleux.
Il y a des images. Cette ville victorienne.
Oui, on est tout de suite immédiatement plongé dans ce 19e quand même qui est la référence. Alors c'est un 19e alternatif, hein, ce qu'on appelle un 19e dystopique victorien d'ailleurs, puisqu'on est dans une série britannique. Il y a des images qui sont très belles, qui sont des images qu'on appelle de la chronophotographie, c'est-à-dire que ce sont des mouvements arrêtés qui, mis bout à bout, donnent une sensation de ralenti. C'est comme un clin d'œil déjà à l'origine du cinéma, ce que je trouve très beau également. Moi je trouve qu'il y a quelque chose d'assez prodigieux qui joue d'emblée, dès l'entrée de cette série, et donc on a envie d'y aller. Et on y rentre. On découvre un décor, parce qu'il y a une direction artistique, il faut le dire, c'est une grosse production, que ce soit les costumes, que ce soit les décors, que ce soit même les objets, enfin tout. Vous parlez de la jeune fille bourgeoise, qui moi m'a nettement moins intéressée que vous, parce qu'elle joue quand même un stéréotype absolu, c'est-à-dire c'est une péronnelle, hein, quand même, clairement, et qui va découvrir, parce qu'il y a aussi une tension érotique qui se noue avec ce personnage, c'est quand même assez cliché, mais bon, peu importe.
C'est surtout très prévisible.
Elle est habillée de façon absolument remarquable, et même dans les détails de sa coiffure, les peines qu'elle a dans ses cheveux, tout ça est extraordinairement précis, méticuleux, et très beau.
Benoît,
alors moi j'ai plutôt bien aimé l'univers. Alors il y a toutes les références que l'on peut voir, bien évidemment. Moi j'aimerais souligner quand même le nom de René Echevarria, parce que René Echevarria, il a quand même commencé à travailler sur des Star Trek, donc il sait ce que c'est que d'adapter un univers politique à la science-fiction, et notamment je crois qu'il était Barjouane peut-être me contredira, mais je crois qu'il était sur Deep Space Nine, enfin une de ces séries là de Star Trek, dans des séries très politiques. Donc lui il sait faire ça. Il a été aussi sur Dark Angel, qui était aussi une série sur des orphelins, dans des univers aussi post-apocalyptiques. Enfin voilà, donc tout ça, il connaît bien. Et moi, ce que j'ai plutôt aimé, c'est justement quand la série s'arrête sur les personnages. Parce que le titre de la série, c'est Carnival Row, donc c'est ce quartier, en fait. Et c'est la vie de ce quartier. Donc moi, toute la grande aventure qui m'est proposée à côté, presque que je m'en fiche, ce que je veux voir de plus en plus, et j'ai hâte de voir la suite, justement, c'est savoir comment ils vont développer ces personnages annexes, cet univers-là, quitte à en faire peut-être un formula show hein, dans les séries, c'est-à-dire qu'il y a certes une enquête que l'on va suivre, il y a certes un mystère, mais ce qu'on va surtout avoir plaisir à suivre, c'est que chaque fois, on nous ouvre des portes, des univers, des personnages. Et il y a tout pour faire une grande série à partir de ça.
C'est vrai que la conclusion de cette première saison ouvre sur un univers plus sombre, encore plus politique, qui pourrait être intéressant.
C'est quand même une société raciste qui parle de la crise de l'homme blanc, et il y a un propos politique. Effectivement, l'intrigue principale, je rejoins Benoît, n'est pas très intéressante, mais le monde est passionnant.
Moi, j'ai eu l'impression que c'est presque comme un banc d'essai cette saison, c'est-à-dire que ça donne beaucoup, ça jette beaucoup, c'est très spectaculaire. J'ai pas réussi à être complètement impressionnée, parce que je trouve qu'il y a un problème quand même au niveau de la conduite du récit. Et puis moi, je reviens sur les deux comédiens. Je suis désolée, je trouve qu'ils font le job, hein, puisque bon, c'est une série en anglais, donc autant utiliser un anglicisme. Mais je trouve qu'il n'y a absolument aucun charisme, ni de l'un ni de l'autre. Et surtout, il y a la tension. Alors, je ne parle pas seulement d'une tension sentimentale ou érotique, puisqu'il y a une romance. Et tout à l'heure, vous parliez de Roméo et Juliette, c'est plus des amants maudits qu'autre chose, hein, quand même, tous les deux. La tension entre eux est très, très faiblarde, quand même. Hein. Alors, je ne sais pas si c'est parce que, bah, effectivement, ils sont tellement accaparés par les fonds verts, par les effets spéciaux, que je pense que le jeu en lui-même est quand même assez faible.
Bon, ben, je vois que je ne vous réconcilierai pas, mesdames, messieurs, autour de ce débat. En revanche, avant, je vous conseille la lecture de Paris démasqué aux éditions Arquet pour parachever ce débat. Eh bien oui, Carnival Row se passe dans une cité fantastique à l'époque victorienne, mais Paris aussi a ses créatures légendes et mythologiques, et c'est ce que nous invite à découvrir Paris démasqué, donc aux éditions Arquet. Paris, la capitale de la rationalité et des lumières, regorge elle aussi de créatures fantastiques qui peuplent ses différentes époques et ses différents quartiers, des rats d'égout aux dragons de la Bièvre, de la Joconde aux pétroleuses de la Commune. Les figures mythiques de la capitale forment elles aussi une singulière galerie de monstres et de super-héros. Comment sont nées ces légendes? Quelle est leur origine sociétale, mystique, économique, politique parfois? Comment ces créatures existent-elles encore dans l'univers collectif, dans la mémoire des Parisiens? C'est exactement ce que nous raconte Quentin Girard, qui est journaliste à Libération, et Louis Moulin, qui écrit quant à lui aux Parisiens. Il nous raconte même comment, et oui, les gargouilles de Notre-Dame ont inspiré directement les créateurs de Batman. Paris démasqué aux éditions Arquet. Et juste avant la chronique de Benoît, petite trêve, on écoute une chanson.
Yes.
Yeah, j'suis positif, yeah, j'suis positif. Maman me dit dans la vie, sois pas négatif. So j'suis positif, yeah, j'suis positif. Mon papa me dit dans vie, sois pas trop difficile. J'aime mon meilleur, j'ouvre les portes comme un serrurier. Work même les jours fériés, oh, oh. J'veux pas avoir de remords, même c'est pour ça que j'travaille fort. Pas quoi de bien avant maman, oh, oh, oh. On garde le smile. Pas juste pour la night, yeah. Faut mettre les efforts, yeah. J'me chapeau le Goliard, yeah. Et juste pour faire, yeah. J'essaie d'être comme personne, yeah. C'est pour ça que j'ai percé, yeah. Soupçon de percé, yeah. Plus une fois dans le cabanon, hey. First place au marathon. Pendant que tu fais everybody wrong. Moi j'ai work hard, j'suis resté strong. Yeah, on se rafraîchit le brain. Seul du bon pied un matin. Rien à foutre des chiales. J'ai le talent, puis j'ai chance. Yeah, j'suis positif. Yeah, j'suis positif. Maman me dit dans la vie, sois pas négatif. So j'suis positif. Yeah, j'suis positif. Mon papa me dit dans vie, sois pas trop difficile. J'aime mon meilleur, yeah. J'ouvre les portes comme un serrurier. Work même les jours fériés. Oh, oh, j'veux pas avoir de remords. Même c'est pour ça que j'travaille fort. Pas quoi de bien avant maman. Oh, oh, oh. J'vois que c'est les coups pour work le rap. Maintenant j'ai trouvé le boulot de rêve. Mes profs pensaient que j'étais à des rêves. Mais non, la zik est pas pour faire. C'est bien triste, la vie c'est pas comme un jeu. Des fois t'as pas toujours ce que tu veux. Fais-toi pour un film juste pour aller mieux. T'es pas Alex, on est bien heureux. Il faut work hard pour le pain. Faut toujours refaire le plein. Pour pouvoir racheter du temps. Pour recommencer demain. Up, man, up, man. Yeah, j'suis positif. Yeah, j'suis positif. Maman me dit dans la vie, sois pas négatif. So j'suis positif. Yeah, j'suis positif. Mon papa me dit dans vie, sois pas trop difficile. J'aime mon meilleur, yeah. J'ouvre les portes comme un serrurier. Work même les jours fériés. Oh, oh, j'veux pas avoir de remords. Même c'est pour ça que j'travaille fort. Pas quoi de bien avant maman. Oh, oh, oh.
Voilà, c'était positif, le titre d'un jeune rappeur québécois de 21 ans qui s'appelle Fouki. Et nous n'avons pas choisi ce jeune rappeur pour rien, puisque du Québec, nous passons directement à la chronique de Benoît Lagane sur les séries inédites.
France Inter. Une heure en série.
Oui, parce que parmi les pépites, moi j'avais déjà envie de vous parler des séries de façon globale, des séries du Québec. Parce qu'il y a un Québec qui produit des séries depuis très très longtemps et qui a une grande histoire avec la télévision et les séries, c'est bien le Québec. Tous les formats sont investis au Québec, de la dramédie, de la sitcom, du soap, enfin, du polar, du fantastique, enfin, tous les univers sont pris en charge par la télévision québécoise. Et en France, alors que c'est de la série francophone, on la voit très peu. Alors il y a certes TV5, une fois par semaine, une série québécoise, en ce moment c'est une série médicale, Au secours BHL. Béatrice, par exemple. Mais c'est
très bon titre.
Ça fait envie.
Mais alors que la production québécoise est énorme. Les séries québécoises sont un petit peu le chaînon manquant entre les séries européennes et les séries américaines. Ça a l'efficacité de la série américaine, la multiplicité des genres, comme je disais, mais ça a aussi des thématiques et des approches très européennes. Moi, ça me fait penser aussi dans un modèle économique à la suédoise, où avec peu de moyens, on arrive à faire des choses extraordinaires. Et parmi ces séries québécoises, on en a vu quand même sur les autres chaînes. Pour vous faire plaisir, il y a eu Les Filles de Caleb, Émilie, mais surtout Blanche avec Pascal Bussière,
qui était diffusée sur FR3. J'ai un petit faible pour Pascal Bussière, voilà, je le confesse.
Qui est passé, fut un temps, il y a eu une série sur le hockey aussi, Lancé Compte, par exemple, qui est passé. Minuit le soir, diffusé Minuit le soir sur France 2, quand même, très tardivement. Mais des
c'est
séries...
raccord, j'ai envie de vous dire.
C'est cohérent. C'est littéral.
Mais du coup, si on n'avait pas TV5, on n'aurait pas de série québécoise. Et là, on a découvert à Série Mania l'an dernier une série qui s'appelle M'entends-tu, une série assez extraordinaire qui a reçu d'ailleurs le prix de la meilleure comédie par un public de lycéens. Voyez Shameless, pour donner un exemple, série anglaise et puis américaine, sur un univers un peu décrit comme ça, univers social particulier. Vous prenez Girls pour le fait que c'est un personnage féminin qui est l'autrice de la série et qui se met en scène dans le rôle principal. Et elle raconte l'histoire de trois jeunes femmes qui vivent donc dans un milieu social vraiment défavorisé et qui se disent que pour que ça aille mieux, elles décident de chanter. Enfin bon, je vous en dis pas plus parce que cette série, j'ai mené l'enquête pour savoir mais est-ce qu'elle va passer sur TV5, j'ai pas vu. Apparemment, et ça je le sais depuis hier ou avant-hier, un chroniqueur québécois qui a annoncé que Netflix aurait décidé d'acheter la série pour la diffuser ailleurs qu'au Québec. Donc on espère que ça va passer. En attendant, sachez que la série va être présentée grâce à Série Mania, qui va aller hors les murs un peu partout pour présenter la série, notamment aux lycéens.
Vous nous rappelez son titre,
M'entends-tu ? Donc une série signée, et je réalise que j'ai pas dit le nom de la créatrice, c'est quand même Laurence Lompré.
Merci beaucoup.
Je suis pour la radicalisation de l'art. Allez, bougez, sentez-vous libre, allez-y. Vous ne faites que reproduire. Vous le faites à merveille, comme un singe savant.
Vous ne savez rien du tout de moi.
Allez, maintenant, dessinez.
L'esprit a besoin d'un corps pur pour être libre.
Voulez-vous vraiment être libre?
Oui, être femme, artiste et libre. Bauhaus, un temps nouveau.
Voilà, Bauhaus, un temps nouveau. Et j'y suis arrivé, mon accent allemand a été retrouvé comme ça, inopinément. C'est sur Arte, les 5 et 12 septembre. Ne vous moquez pas, vous êtes encore en sursis. Hein. 20h55, 3 épisodes par soirée. Et évidemment sur Arte TV jusqu'au 3 décembre. Saluons effectivement la politique d'Arte qui diffuse très longtemps après la diffusion sur son antenne les séries télé que vous pouvez retrouver donc tranquillement. Nous sommes à Weimar 1919. La jeune Dorte Helm, contre l'avis de son père, s'inscrit à l'école du Bauhaus, dirigée par le beau Walter Gropius, dont elle ne va pas tarder, évidemment, à tomber amoureuse. Elle a vraiment existé, je tiens à vous le dire. Dorte Helm est une peintre qui a réellement fait des tableaux. Alors, avènement du communisme, montée de l'antisémitisme en Allemagne, égalité homme-femme, déjà un sujet tant rêvé, art nouveau, révolutionnaire, collectivisme, absence ou engagement politique sont les thèmes de cette série signée Lars Krohm, que les cinéphiles connaissent un peu, puisqu'il avait signé Fritz Bauer, un héros allemand, en 2015, et La Révolution silencieuse en 2018, dans le rôle de Walter Gropius, il y a le beau Auguste Diehl qu'on a pu voir dans Le Jeune Karl Marx de Raoul Peck il n'y a pas si longtemps et qui sera à l'affiche du très beau film Une vie cachée de Terrence Malick qui était présenté cette année en compétition à Cannes. Vous aurez compris que ce n'est pas un film que j'aime beaucoup. Alors, moi la aussi question, merci Ariane, mais ce n'était pas du tout le thème. Alors, grand souffle historique et romanesque ou lourd devoir pédagogique un peu poussiéreux, Ariane Allard?
Alors, moi je dois reconnaître que je suis quand même rentrée dans cette série avec, on va dire, circonspection. Parce que d'emblée, en fait, ce qui se passe, c'est qu'on est dans une première période, c'est les années 60, où Gropius est âgé et se fait interviewer par une journaliste. J'ai cru comprendre qu'elle était allemande, même si l'actrice est danoise. Et c'est par le jeu des questions de cette journaliste que chaque épisode va nous replonger dans un épisode du passé. C'est quand même une forme de narration qu'on a vue, revue, archi-revue, qui est très convenue. Et puis, qui est surprenante, puisqu'on parle quand même d'un mouvement artistique qui veut inventer le futur de l'art, de se retrouver dans une narration aussi académique, on va dire. Donc voilà, moi je me suis dit, ça va être un petit peu ennuyeux, hein, pour ne pas dire autre chose. Et puis, il se trouve quand même que le sujet est quand même relativement pointu, je dirais, pour des gens qui ne sont pas initiés liée à l'histoire de l'art ni à l'histoire allemande, faut le dire quand même. En tant que Français, on ne connaît pas nécessairement très bien cette période. C'est-à-dire, c'est la période qui est juste après la guerre, une période qui est quand même une période assez difficile. L'Allemagne est aux abois économiquement et politiquement, et puis surtout c'était une Allemagne défaite. Donc tout ça, moi je me dis que finalement, ce cadre qui est assez conventionnel, au fur et à mesure des épisodes, moi j'ai réussi quand même à trouver un souffle, disons une montée en puissance du récit, parce que comme c'est un cadre traditionnel, le nombre d'informations qui en revanche, elles, ne sont pas connues, en tout cas pour des gens comme moi, hein, moi je suis absolument pas experte ni en histoire de l'art, ni en histoire allemande, on arrive à mieux les absorber, à mieux les digérer. Certes, il y a un petit côté pédagogique, mais comme par ailleurs, il y a aussi un enjeu romanesque, moi je trouve que la matière, il s'en sort pas si mal. Je pense qu'à partir du troisième ou quatrième épisode, c'est-à-dire quand il arrive à resserrer réellement son récit, parce que à l'origine quand même c'est une série qui interroge, et c'est ça qui moi m'intéressait au départ, la place de la femme dans l'art et la place de la femme dans les écoles d'art, ça c'est intéressant. Et il met un peu du temps, je trouve, à mettre ça en place, parce qu'il a tellement de choses à nous raconter, ne serait-ce que de mettre en place le cadre, l'histoire, les personnages, que ça vient plus tard. Et ce personnage évidemment d'Horthe Helm, elle est super intéressante, elle est entière, elle est passionnée, elle est intense, et elle met un peu du temps à trouver sa place dans le récit, je trouve.
Mais est-ce qu'on était obligé de rentrer dans la série par un personnage masculin une fois de plus, quoi?
Voilà, c'est Walter Gropius
qui occupe le premier plan pour nous dire qu'effectivement les femmes ont existé. C'est quand même toujours un peu une faute de goût.
C'est lui qui raconte.
Nous avons une historienne, justement, ça tombe bien, multifacette, Marjolaine Boutet. Bauhaus, un temps nouveau ou un temps révolu?
Et alors, pour faire très vite, c'est tout ce qu'il ne faut pas faire dans une série historique.
C'est-à-dire
C'est vraiment un cas d'école de tout ce qu'il faut pas faire. C'est-à-dire que c'est une série qui oublie que montrer, c'est toujours plus efficace que dire. Or là, en fait, toutes les informations dont vous parlez, elles ne sont jamais montrées à l'écran, elles sont dites par des chants contre chants. Il y a une scène dans l'épisode 3, justement, du débat entre le communisme, vraiment des choses très intéressantes entre le père et sa fille.
Du début du XXe siècle.
Toute l'idéologie qui nous est balancée en chant contre chant, il ne se passe rien. Et donc, on nous donne toutes ces choses dont on ne sait pas quoi faire et dont le scénariste ne sait pas quoi faire non plus. Et c'est une série aussi qui raconte l'histoire, précisément comme le dispositif, par a posteriori. C'est-à-dire qu'on revient depuis les années 60 vers les années 20 en reprochant à ce pauvre Gropius, avec cette journaliste féministe qui est une caricature de féministe, en lui reprochant de pourquoi vous n'avez pas fait plus pour la cause des femmes. Ben parce qu'on était en 1919, qu'effectivement l'Allemagne était détruite, que, et ça on le voit pas, il y a quand même 2 millions de morts, 4 millions de blessés, il y a des invalides partout, la société elle est détruite. Et pourquoi le Bauhaus c'est un tel espoir? Parce qu'il faut, il y a une société à reconstruire et il y a une démocratie à inventer. Et ça, je trouve qu'on ne voit pas assez. Pour la République de Weimar, pour la fureur de la République de Weimar, regardez plutôt Babylone-Berlin, qui a des défauts, mais qui est beaucoup plus intéressante que ce truc plan-plan qui nous fait perdre les vrais enjeux de la période. Et c'est ça mon reproche principal.
Je ne vous caricature pas en disant que vous n'avez pas aimé, hein, Marjolaine.
On est en dessous de la vérité.
Benoît. Alors moi, je n'ai pas aimé du tout, du tout, du tout.
D'accord, merci beaucoup.
Non, déjà, je me suis endormi 3 fois dans le premier épisode. Dans une série télé, ça ne pardonne pas. Quand on est devant sa télé et qu'on s'endort au bout de 15 minutes, c'est que déjà, c'est mal parti. Ensuite, je suis complètement d'accord avec ce que dit Marjolaine. Ces discours plaqués... Enfin, moi, j'avais l'impression d'être dans l'encyclopédie Wikipédia mal écrite. Ouais. C'est-à-dire que je sais ce que je vais vous raconter, je sais tout ce qu'il faut que je dise, alors je le dis et je coche. Et tu vas dire ça. Et puis je réponds à côté. Mais alors, je sais pas si c'est bien joué, mal joué. Moi, je suis pas bilingue allemand, je connais pas bien l'allemand, donc je sais pas trop sentir si c'est bien joué, mal joué. Mais moi, ça ne m'a pas intéressé. Je ne connaissais rien du tout à cette histoire. Mais il y a plein de séries historiques qui m'ont fait aimer des choses sur lesquelles je ne connaissais rien et où j'étais embarqué. Et puis surtout, ces personnages, je les trouve extrêmement snob, pas intéressants du tout, très loin du peuple, rien qui m'interpelle moi dans mon canapé quand je regarde la série.
C'était donc Bauhaus, un temps nouveau sur Arte. S'il y a encore des gens qui ont envie de le découvrir, ce seront les 5 et 12 septembre à 20h55 et disponible jusqu'au 3 décembre sur Arte TV.
Sunday morning brings the dawn in.
It's just a restless feeling by my side. Early dawning, Sunday morning. It's just the wasted years so close behind. Watch out, the world's behind you. There's always someone around you who will call. It's nothing at all. Sunday morning, and I'm falling.
Vous avez évidemment reconnu Nico et le Velvet, ça chantait en studio avec Sunday Morning, allusion à la série un peu malmenée par mes petits camarades, Boos, un temps nouveau sur Arte, et encore je suis diplomate.
France Inter, une heure en série.
Benoît, c'est encore à vous, vous squattez l'antenne aujourd'hui avec votre chronique « L'effet miroir ». Quand la télé regarde le monde et se fait l'écho des évolutions de celui-ci. Et aujourd'hui, pour un peu plus d'effet, vous voulez que nous ressortions nos vieux Walkman ?
Salut, c'est Anna. Anna Baker. Assieds-toi, parce que je suis sur le point de te raconter l'histoire de ma vie. Et si tu écoutes cette cassette, c'est que tu n'y es pas pour rien.
Eh oui, rentrée des classes, effet miroir, retour au collège ou au lycée. Ce soir, les auditeurs abonnés à Netflix auront peut-être reconnu à l'instant la voix d'Anna Baker, l'adolescente de la série 13 Reasons Why, les 13 raisons du pourquoi du comment. La série a fait beaucoup parler lors de son lancement en avril 2017. Certains avaient salué à ce moment-là le courage des auteurs qui osaient aborder dans cette série des sujets plutôt difficiles destinés à un public adolescent. Alors ça, c'est pas nouveau que des séries adolescentes traitent des sujets plutôt difficiles. La question du harcèlement à l'école, la dépression, le suicide, c'est le sujet de cette série, parce que la série raconte la vie d'un lycée secoué après le suicide de l'adolescente, donc Anna Baker. La scène du suicide qui arrive tard dans la série a même fait débat, au point que en saison 2, Netflix a décidé de demander aux comédiens d'enregistrer des clips avec des messages de prévention et d'avertissement, et que en saison 3, là, à la sortie de la saison 3, ils ont même décidé de remonter la saison 1 et d'enlever la scène du suicide d'Anna. Alors, à tort ou à 13 raisons, difficile de le dire, Xavier, on peut penser que montrer la dureté et la violence d'un tel geste serait éducatif, mais des études démontreraient l'inverse. Quoi qu'il en soit, parler frontalement dans une série de thématiques difficiles, mais qui concernent le public adolescent, ben, ce n'est plus à démontrer.
Et c'est la Benoît que vous rembobinez la cassette. audio, évidemment, pour le Walkman, et que vous nous ramenez dans les années 80.
Oui, cette époque où l'on était fier d'avoir la fonction auto-reverse sur notre magnéto-cassette. Une époque où, tout à coup, la télévision a compris qu'elle pouvait parler différemment de l'âge ingrat. Alors certes, depuis longtemps, via des séries familiales ou des sitcoms, le monde de l'adolescence et des personnages ados étaient montrés sur le petit écran, et j'aurai l'occasion d'y revenir dans un prochain épisode, mais à partir des années 80, les séries dramatiques ont décidé de montrer autrement et de façon plus réaliste ce temps de l'adolescence. Alors si je vous parle de Joey Snake, et Wills, The Zit Remedy, si je vous parle de Caroline et de ses crises d'épilepsie, de Spike, la jeune punk qui apprend qu'elle est enceinte alors qu'elle n'a que 14 ans, on écoute le générique. Marjolaine, vous avez reconnu.
Ah ouais, les années collège.
Les années collège, série canadienne qui a été un miroir étonnant pour les années collège et lycée de ceux qui avaient des boutons d'acné à la même époque, comme vous et moi, Marjolaine. On y montrait, sans être moralisateur et sans excès des pensées parfois sombres, des inquiétudes contemporaines, c'était les années sida, c'était montré dans la série, et déjà le suicide des ados. La série était diffusée en France sur la deuxième chaîne juste après le collège, et c'était comme un prolongement fictionnel finalement de ce que nous vivions, mais pas à Toronto. Plus tard, la génération suivante aura une jeune fille qui s'appelle Angela et qui a 15 ans, mais ça, j'en parlerai dans un autre effet miroir si vous le souhaitez.
Mais j'espère bien, je vais juste démentir l'information que vous avez essayé de glisser en midi de façon un tout petit peu ignominieuse. Non, Marjolaine n'a jamais fait d'acné. Je tiens à le dire. Et ça, c'est pas bien ce que vous avez fait, Benoît. Je tiens à vous désavouer.
J'ai
en
eu
public.
13 ans comme tout le monde et une adolescence difficile.
Oui, alors non, on arrête avec la psychanalyse, c'est une émission grand public, on s'en fout de ce que vous avez fait dans votre enfance. Les filles, vous avez un souvenir, une série adolescente qui a particulièrement marqué votre psyché, votre éveil au monde, votre érotomanie?
Ben, les années collège, vraiment, moi ça a été effectivement un prolongement fictionnel et qui me soignait de ma réelle expérience du collège. Et surtout, par rapport à Beverly Hills ou d'autres séries américaines, c'était des acteurs qui avaient réellement l'âge de l'adolescence et qui avaient, comme nous, des tronches en biais avec des manteaux qui poussent et des nez et des trucs. Et voilà, oui, on comprend pas ce qui se passe.
Mais c'est vrai qu'Ariane et moi, l'adolescence, c'était pas tout à fait une période qui était couverte par la télévision quand nous étions jeunes.
Moi, elle était surtout cinéphile, mon adolescence, donc je suis désolée.
Là là. Merci beaucoup, Marjolaine. Allez, tout de suite, le troisième débat, Good Doctor. La saison 2 débute sur TF1. Oui, j'avais promis que nous parlerions en débat que de première saison. Je déroge un tout petit peu dès la deuxième émission à cette règle. Mais bon, The Good Doctor se résume assez facilement. C'est un énorme carton sur TF1. Cette saison 2 va démarrer le 11 septembre. Aux États-Unis, c'est plus de 10 millions de spectateurs en moyenne. En France, c'est 6 millions. Ça raconte l'histoire de Sean Murphy, qui est un jeune docteur autiste, mais extrêmement savant, qui rêve de devenir chirurgien et qui intègre en tant qu'interne un service dans le prestigieux Saint Bonaventure Hospital de Saint-José. C'est écrit par David Shore, auquel on devait déjà Dr House, et interprété par, en ce qui me concerne, le très crispant Freddie Highmore. Mais peut-être allez-vous me désavouer, me contredire. On l'avait vu dans Charlie à la chocolaterie, Arthur et les Minimoy et Bette Motel, où il était formidable. Bon, on fait quoi de cette série qui est un peu entre Adrien Monk, c'est-à-dire le détective bourré de toc, Sherlock, dans cette manière de surimprimer sur l'écran parfois de temps en temps des courbes mathématiques dont on se demande vraiment ce qu'elle vient de faire là, et Dr House. Vous aurez compris, c'est pas totalement mon tropisme Good Doctor, mais c'est un énorme carton, donc nous ne refusons rien, évidemment, dans une heure en série. Benoît, la question que j'ai envie de vous poser, c'est pourquoi tant de séries médicales et pourquoi à chaque fois un carton? Parce que j'ai l'impression qu'elles se ressemblent toutes.
Parce que c'est un genre, et que si on observe la télévision américaine, on sait que ça fonctionne par genre. Il y a des genres, il y a les séries policières, il y a les séries judiciaires, il y a les séries médicales, il y a les séries familiales, enfin il y a tous ces genres-là. Et que c'est un vrai registre, et que les Américains, quand ils regardent ces séries, ils ont une histoire avec ces séries-là. Et que la série médicale, ce qui est très fort avec ces séries-là, c'est que ça condense tout. L'attention qu'on peut avoir dans un polar, l'émotion qu'on peut avoir dans une série familiale, le rapport à la vie, à la mort, et toutes ces séries donc interpellent, même si on est hypochondriaque. Parce que ce que l'on y voit, c'est soit des médecins...
Vous ne parlez pas de vous, là, Benoît.
Un peu, si.
Un petit peu, j'avais compris.
Non, mais moi, par exemple, j'ai toujours eu 8 sur 20 en bio, et pourtant, j'adore les séries médicales. J'ai adoré Urgence, j'ai beaucoup aimé Dr House, et j'aime beaucoup Good Doctor, parce que c'est une série qui, au-delà de ce qu'on peut en dire sur le plan visuel, est une série qui nous raconte quelque chose de fort, c'est une série qui nous parle de la communication, de qu'est-ce que c'est que communiquer. Et quand on va à l'hôpital, on sait ce que c'est que de parler à un médecin. Et finalement, on a envie d'avoir des médecins brillants, et c'est le cas de ce personnage, mais on a envie d'avoir des médecins qui savent nous parler. Et c'est tout ce que la série pose de façon brillante.
Alors, la spécificité de The Good Doctor par rapport aux autres séries médicales, c'est de mettre dans le rôle principal un jeune médecin autiste. Oui. Marjolaine, l'autisme à la série télé commence à arriver. On voit de plus en plus de personnages autistes.
Très à la mode.
Mais sont-ils, ouais, c'est très à la mode. Sont-ils pour autant bien traités ou respectueusement traités par rapport à la réalité de leur pathologie?
Alors, on est toujours dans la question de la représentation de la différence à la télévision américaine. Et la télévision américaine fait ça très très bien. Il y a eu la représentation des femmes de pouvoir, des femmes plus âgées, des personnes de couleur et en particulier des hommes noirs. Puis maintenant, on commence à venir aux femmes noires et aux asiatiques. Et puis, il y a le handicap. Alors, le handicap à la mode, à Hollywood et dans les séries télé, c'est effectivement l'autisme. L'autisme version Asperger, dont le représentant le plus connu, c'est Sheldon Cooper, dans The Big Bang Theory, interprété par Jim Parsons. Il y a aussi la série Atypical sur Netflix, où là encore, le jeune garçon autiste est interprété par un acteur parfaitement valide. La particularité de tous ces personnages, c'est qu'ils sont tous blancs, hétérosexuels, minces. Et leur seule différence, finalement, c'est l'autisme.
Et plutôt joli.
Et plutôt joli garçon. Comme si leur seul handicap dans la vie, leur seul problème dans la vie, c'est l'autisme. Et c'est ça le problème de la représentation, comme quand on a représenté tous les hommes noirs qui avaient des super situations, qui étaient riches, qui étaient éduqués, qui étaient bien élevés, etc., etc. Et on n'en a toujours évidemment qu'un. Or, le handicap, ça peut toucher tout le monde dans toute situation, et c'est pas forcément parce qu'on en a un qu'on n'en a pas un autre. Donc, là, il y a vraiment un problème. À la fois, on cherche à éduquer le public à cette question de l'autisme, et en même temps, on représente un autisme très particulier, qui est quand même...
Est-ce qu'on peut oser dire le mot très présentable ?
Oui, tout à fait, très présentable, très...
C'est un vrai souci, hein ?
Très représentable aussi dans la mesure où on présente un personnage qui est considéré comme universel, c'est-à-dire avec lequel on se sent en empathie. Et donc, il est blanc, hétérosexuel et de sexe masculin. Donc, évidemment, tout ça, c'est du whitewashing. Donc, c'est à la fois la question de la représentation et du futur. Moi, ce que j'attends, c'est une série où il y a plusieurs autistes, comme dans une série où il y a plusieurs noirs, c'est l'importance de The Wire, et on aura l'occasion de discuter des sauvages. Mais il y a quand même des séries où il y a plusieurs personnages en situation de handicap joués par des acteurs qui ont réellement ce handicap. Switch at Birth, diffusé sur Sister, où la moitié du casting est sourd et en langue des signes. Et une série, une shortcom Vestiaire sur France 2. Très importante aussi dans la représentation du handicap et l'emploi des acteurs en situation de handicap. Et enfin, Speechless, une sitcom américaine où, là pour une fois, la famille, eh bien, elle est pauvre et elle a un enfant qui est réellement en situation de handicap lourd et elle se démène comme elle peut. Et je trouve ça extrêmement touchant, beaucoup plus que The Good Doctor.
Bon, on va revenir quand même à The Good Doctor juste pour conclure ce débat. Ariane Allard, est-ce que c'est une bonne série ou est-ce que c'est encore un produit totalement prévisible et manufacturé? Là, je glisse un tout petit peu mon opinion. Vous l'avez remarqué quand même.
Mais vous faites bien parce que vous avez raison. C'est essentiellement une série, je dirais. Alors, c'est une série optimiste, hein, ce qui est pas forcément le cas de toutes les séries médicales. C'est un personnage qui a l'avantage d'être sans filtre, hein, puisqu'il a effectivement des interconnexions sociales qui sont compliquées. Donc, tout ce qu'il pense. Il le dit, et dans un lieu hospitalier, c'est toujours un petit peu bizarre et compliqué. Le titre dit, il est clair, c'est The Good Doctor, c'est-à-dire que c'est le bon médecin, c'est-à-dire celui qui veut faire bien les choses, mais c'est aussi un homme bon, voilà. Et moi, je trouve que c'est un petit peu ennuyeux, personnellement, sur le fond et sur la forme. Alors là, c'est quand même carrément soporifique. Il y a à peu près 4 lieux essentiellement qui sont filmés, c'est des plans fixes, interminables.
C'est une série de network, hein, voilà. Faut juste
mais je termine quand même parce que je pense qu'il faut aussi le décrire pour ceux qui ne mettront pas les yeux sur cette série qui à mon avis vaut pas la peine. C'est-à-dire que c'est quand même essentiellement des dialogues, c'est très très bavard. Les gens sont essentiellement assis ou alors ils sont debout parce qu'ils sont dans la salle d'opération. Et puis surtout, alors moi c'est une série qui est complètement centrée, calibrée sur son personnage principal. On a l'impression qu'ils en reviennent pas de l'avoir créé et du coup tout ce qui se passe autour et notamment les personnages secondaires sont totalement inexistants. D'abord parce que les comédiens comédiens se ressemblent tous, non. même s'ils ont fait un effort de diversité dans la couleur, dans les présentations. Les garçons sont essentiellement musclés avec le menton carré, les filles ont des espèces de cheveux qui sont wavy, qui tombent sur les épaules, qu'elles fassent 5 heures d'opération de neurochirurgie ou pas, de toute façon, elles en ressortent impeccables. On a toute l'impression qu'elles sortent du pressing. Moi, je trouve que c'est quand même assez pauvre. Alors, bien sûr qu'on est fasciné par le personnage, qui en plus n'est pas filmé comme les autres. Il est filmé dans une espèce de lumière, alors que les autres sont filmés dans une espèce d'ambiance bleutée, lactée. Moi, je trouve qu'il y a quelque chose d'un peu bizarre et d'un petit peu ambigu autour de lui.
C'était The Good Doctor, saison 2 sur TF1. À partir du 11 septembre, visiblement, c'est à consommer avec beaucoup de modération, d'après ma petite camarade, ou pas, d'après les autres.
Non, on peut
ça
le regarder.
Peut pas faire de mal. C'est le cas de dire, puisque c'est un médecin. Voilà.
Très bien.
J'ai rencontré Sean Murphy alors qu'il n'avait que 14 ans. C'était un jeune homme extraordinaire. C'est toujours le cas aujourd'hui, croyez-moi. L'autisme. Des difficultés à communiquer, à utiliser le langage et les concepts abstraits. Ces caractéristiques s'appliquent-elles à un chirurgien ? Respire. Vous lui avez sauvé la vie. Qui êtes-vous ?
Je suis le docteur Sean Murphy.
Il fait preuve d'aptitude exceptionnelle. Il voit les choses avec un regard différent.
Là.
Vous aviez raison.
La première fois que vous m'avez vu, vous avez été méchante. Et maintenant, vous voulez être mon ami. À quel moment vous faisiez semblant ?
Il souffre d'un déficit important.
Aujourd'hui, un enfant est en vie grâce à ce déficit.
Et demain, un autre mourra par sa faute.
En faisant le choix d'engager Sean, nous redonnerons de l'espoir à ceux qui souffrent d'un handicap et nous leur montrerons que ce que l'on considère comme un handicap n'en est pas un et qu'ils peuvent aussi tenter leur chance.
Surtout, n'oublie jamais que t'es le cerveau de la famille. Tu peux faire ce que tu veux.
Good Doctor, la nouvelle série événement sur TF1.
Voilà, c'était un extrait de la bande annonce de The Good Doctor, saison 2 sur TF1, dès le 11 septembre. J'aime bien l'emballage musical, on a l'impression d'un super-héros, d'un type ultra-victorieux. Voilà, c'est peut-être aussi
l'homme
un tout petit peu les limites
mais ça, c'est
de
le...
cette
c'est...
série. Non,
c'est
ne
juste
refait
le pilote,
pas
le
débat,
c'est juste le début,
Benoît,
la mise en
ne
place.
Ne refait hein. pas le débat. Je crois que maintenant, nous avons rendez-vous chez le médecin, donc tenez-vous tranquille.
Comme beaucoup de filles, tu rêves d'être Brenda, d'avoir ton Dylan et d'insulter ton papa. Tu viens d'avoir 15 ans, intéressant. Ne dis rien à tes copines, je ne dirai rien à tes parents. Mais si tu acceptes ces conditions, on jouera à des jeux polissons. Tu seras Hélène et je serai tous les garçons. Je serai l'abeille qui va lécher ton miel. Je te ferai ton premier baiser. Mais ne sois pas fâché contre les filles d'à côté qui dans leur classe de mannequin veulent m'attirer. Test psychologique. Méfie-toi des bluffs astrologiques. Si tu te demandes comment draguer cet été, pour te conseiller, je suis ok. Monte sur mon podium, n'aie pas peur de l'homme ni de son spéculum. Tu n'aimes pas les mineurs et préfères les majeurs. Bravo, girl, mon cabinet est ouvert à toutes les heures. Pour toi, ma chérie, viens voir le docteur.
Viens voir le docteur, non, n'aie pas peur. Viens voir. Viens voir le docteur, non, n'aie pas peur.
Cette année, oui, c'est ton année. Tout le monde te l'a répété. Tu seras avocat, comme a dit ta mère. Ou médecin, comme le veut ton père. Le bac, c'est l'enfer cette année, ta flair. Normal quand on passe sa vie en boîte de nuit dans le délire. Tu as raison d'allier travail et plaisir. Mais laisse de côté les cris que tu maîtrises mal. Je te ferai passer l'oral sur ma fleur de mal. Bien révisé, oui, bien révisé. Révise tes mathématiques en mesurant matrique. Pour te faire délivrer mon ordonnance. Passe à mon cabinet, mais en cas d'absence. Je te rappelle qu'il faut que t'appelles. Si je ne suis pas là, que tu rappelles, je t'appelle. Mon numéro de phone, tel le 36-63-63-40. Le docteur devient correcteur pour sa patiente. Comme mon cœur, mon cabinet est ouvert à toutes les heures. Pour toi, ma chérie, viens.
voir le docteur.
Évidemment, nous n'avons pas pu résister à cette mauvaise blague pour accompagner le débat sur The Good Doctor. C'était Doc Génico, bien sûr. Viens voir le docteur, mille excuses.
France Inter. Une heure en série.
Vous êtes toujours sur Une heure en série avec Ariane Allard, Marjolaine Boutet et Benoît Lagan. Ça s'est bien engueulé pendant les débats et même en dehors. Mais c'est exactement ce que je vous demande. Il est l'heure du plateau télé, donc soyez enfin généreux, soyez enfin vous-même. Aimez-vous les uns les autres, aimez les séries et recommandez-nous, entre autres, en plus des séries dont nous vous avons parlé, des choses, des pépites qui sont encore actuellement diffusées et pour lesquelles vous avez eu un gros coup de cœur. Ariane Allard, je vous propose de nous parler d'une série qui passe encore sur Canal+, et qui s'appelle Patrick Melrose.
Voilà, en fait, c'est ça, coup de bol, ça repasse, c'est une rediffusion sur Canal Série ce week-end. Donc, et en particulier demain dimanche, toute l'après-midi. Donc voilà, je ne sais pas s'il fera beau ou pas, j'ai pas regardé la météo, mais ça peut être l'occasion de caler son après-midi devant Patrick Melrose. Je vais dire que c'est un plateau télé particulièrement corsé et décapant d'emblée pour bien situer les choses. Rappeler le pitch de concrètement de quoi il s'agit. Donc Patrick Melrose, c'est le rejeton d'une famille aristocratique anglaise qui, en gros, ne s'est jamais remis des violences et des abus sexuels, notamment perpétré à son encontre par son père, qui était une figure totalement tyrannique, abusive et odieuse. Et on rencontre Patrick Melrose alors qu'il a une trentaine d'années. C'est une série qui se situe dans plusieurs périodes. Elle est en 6 épisodes. Et en fait, on le rencontre au moment où il apprend la mort de ce père haï, Oni, dont il avait évidemment pris le large. Et cette nouvelle va provoquer un cataclysme en lui. Je précise tout de suite d'emblée que même si le sujet est douloureux et difficile, c'est quand même l'histoire d'une résilience. Une résilience très mouvementée, mais une résilience. Donc il y a une dynamique quand même très claire de cette série. Je juste rapidement donner trois arguments parce que c'est vraiment une série c'est une mini-série, hein. Donc elle est plus condensée que celle dont on vient de parler. Il y a trois raisons pour lesquelles il faut rentrer dedans, il me semble même plonger dedans. La première, c'est l'humour qui traverse cette série. Le personnage de Patrick Melrose, je pense, a survécu à cette enfance calamiteuse par le biais de l'humour, du sarcasme, de l'ironie. Bon, ce détachement est très anglais et c'est, je pense, aussi une marque de classe parce que l'aristocratie anglaise pratique beaucoup ce genre d'humour. Mais enfin, c'est ça qui l'a servi et ce qui est très étonnant pour nous Français. Et la deuxième raison, c'est bien sûr son casting. C'est Benedict Cumberbatch qui joue le rôle de Patrick Melrose et qui fait quelque chose d'absolument ahurissant. Si vous l'avez aimé dans Sherlock, vous ne pourrez que l'adorer dans cette... Et c'est vraiment une palette extraordinaire de jeux et il ne cabotine pas, contrairement à ce que j'ai pu lire ça et là. Je pense qu'il est juste. Voilà. Il y a deux autres acteurs avec lui qui sont formidables. formidables. Il y a Jennifer Jason Leigh, qui est une actrice américaine qu'on voit beaucoup moins, qui a été révélée dans les années 80, qui fait le rôle de sa mère. C'est une mère négligente, c'est une mère absente même quand elle est là. C'est une mère éthylique, mais c'est surtout une mère terrorisée elle-même. Et puis il y a son père c'est Hugo Weaving, c'est un acteur qu'on a surtout connu dans le monde entier grâce à la saga Matrix, puisqu'il faisait l'agent Smith. Et il fait un père, enfin moi je trouve que c'est assez extraordinaire ce qu'il fait en très peu de choses, il est sobrement terrifiant. Dernière chose, et après je passe la parole à mes camarades, parce que c'est vraiment
si vous
important.
Voulez bien en même temps. Hein.
C'est une mini-série, mais c'est surtout qu'il y a de la réalisation, il y a du cinéma, même si c'est une série. C'est-à-dire que chaque épisode a son style propre et s'adapte aux propos et à ce qu'il veut raconter. Et par exemple, je donne le premier exemple, parce que le premier épisode...
J'ai eu très peur.
Non, le premier épisode, on peut penser à La Zega Parano de Terry Gilliam, parce que c'est complètement convulsif, hallucinatoire, mais ça n'est qu'un exemple. L'épisode numéro 2 est beaucoup plus calme, beaucoup plus sobre, beaucoup plus linéaire. Donc voilà, il faut rentrer dedans, mais je dois reconnaître que c'est très stimulant, très fort, sur un sujet complètement douloureux et sensible.
C'était donc le plateau télé d'Ariane Allard, et uniquement d'Ariane Allard, puisqu'il n'y a plus de temps pour les autres. Merci beaucoup de votre bonne camaraderie. Allez, retrouvons quelques secondes pour Marjolaine Boutet, qui va nous parler de The Boys sur Amazon Prime.
Très rapidement, donc The Boys, c'était un plaisir merci inattendu beaucoup, de cet été. Adaptation d'un comics et donc série gore ultra violente, je préviens les téléspectateurs, qui part du principe que les super-héros existent dans notre monde, donc notre monde à nous, et sont de vraies célébrités. Et en fait, à travers ce propos-là, c'est une série extrêmement méchante sur le star system. Il y a un petit discours MeToo qui est pas désagréable, et notamment une scène de sexe avec un homme poisson, je vous en dis pas plus, qui... Voilà.
Mais si, justement, dites-nous en plus.
Eh bien, c'est intéressant qu'il n'y ait pas que les femmes qui détruisent. voilà. Et
ah, merci. Vous êtes bien sur France Inter.
Ah bah, on me cherche, on me trouve. Voilà, c'est plein de bonnes idées de mise en scène, de scènes d'action. Les dialogues sont au cordeau, les acteurs sont formidables. Et voilà, Elizabeth Chou, notamment, est tout à fait extraordinaire dans le rôle de femme de pouvoir qui tire les ficelles d'un super salaud joué par Anthony Starr, qu'on a vu dans Banshee, et là, qui a les cheveux blonds platine.
Elizabeth Chou, dont on reparlera en décembre, puisqu'elle vient de signer la nouvelle adaptation ciné de Charlie's Angel, Charlie et les drôles de dames, dans une version très 2019, nous promettons et nous l'espérons. Pour ma part, si j'ai encore quelques secondes, je vous recommanderai l'excellente série sur Netflix, The Naked Director, l'avènement du cinéma porno dans les années 80 au Japon, dans une société donc assez peu ouverte, assez hypocrite, assez faussement pudibonde, mais dans lequel évidemment le porno, les journaux d'abord et puis ensuite le cinéma, l'industrie du cinéma porno. C'est l'avènement d'un petit VRP un peu minable, habillé en col roulé, qui ne paye pas de mine, que sa femme largue parce qu'il est un mauvais amant et qui va se révéler un excellent metteur en scène de films un peu originaux dans un pays où on fait un petit peu quand même quelque chose d'un peu ouaté comme ça, discret. Lui, il va y aller assez directement avec des scénarios intéressants. C'est une série, malgré son sujet, en dépit des apparences, qui est vraiment féministe et assez pédagogique, puisque vous pouvez apprendre au troisième épisode comment on fait de la fausse semence pour les films donc à caractère pornographique. On ne sait jamais, ça peut servir. Il est temps de nous quitter. Mille merci, chère Ariane Allard, chère Marjolaine Boutet et cher Benoît Lagarde, d'avoir participé à ce numéro 2 donc, de l'émission Une heure en série. La semaine prochaine, nous partirons à la campagne avec Le Village, la série de la documentariste Claire Simon. Nous retrouverons notre enfance avec les marionnettes de Dark Crystal sur Netflix et nous frissonnerons avec moi déjà un gros coup de cœur, The Terror sur Amazon Prime et bien sûr plein d'autres recommandations. C'est une émission à réécouter en podcast, le site internet bien évidemment, et puis il y a une rubrique courrier. Vous pouvez nous envoyer vos opinions positives, négatives. Ça nous fera extrêmement plaisir de savoir ce que vous pensez de ce rendez-vous Une heure en série, donc proposé par France Inter tous les samedis de 20h à 21h. Je vais remercier évidemment Marie-Annick Rimbaud pour la réalisation, la programmation musicale de Muriel Pérez, Amel Caldi qui nous aide à préparer cette émission avec énormément de talent, et à la technique Maxime Ingrand, qu'ils soient toutes et tous remerciés.